France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté ce soir. Dominique Simonneau a lancé un appel il y a quelques jours. Appel à ceux qui peuvent aller en prison, magistrats, avocats, parlementaires, pour qu'ils aillent voir ce qui s'y passe, la surpopulation carcérale, mais aussi les conditions d'hygiène qui bien souvent laissent à désirer et pour lesquelles elle a déjà alerté. Exemple à la prison de Bédenac en Charente-Maritime, une prison où se trouvent les plus vieux détenus de France. Pas assez de personnel pour les toilettes.
On n'a pas le personnel pour aller les faire. Donc une personne qui a des protections, qui est incontinente, reste dans son pipi du vendredi matin jusqu'au lundi matin.
Reportage de Julien Fleury à suivre. On évoquera les prisons, bien sûr, mais pas seulement, car Dominique Simonneau est également chargé du contrôle des lieux de garde à vue, des centres de rétention, des centres éducatifs fermés et d'une partie des hôpitaux psychiatriques. On parlera aussi de son parcours, qui mérite le détour. Dominique Simonneau, juriste de formation, a été éducatrice pénitentiaire, puis chroniqueuse judiciaire pendant des années à Libération et au Canard Enchaîné. Également au sommaire de cette émission, préparée par Irène Menahem et réalisée par Juliette Gou, l'actualité de la semaine, bien sûr, et la chronique « Jeu de pouvoir » de Vincent Martini de l'Hebdo Le 1 ce soir, quand les candidats font dans la transgression pour se faire entendre. À 19h, le journal d'Hélène Filly, à 19h20, le téléphone sonne. Ce soir, question sur la dématérialisation des services publics. Avec cette question, jusqu'où aller ? La défenseure des droits, Claire Hédon, alerte une nouvelle fois sur les conséquences du tout numérique, car il est bien difficile de faire toutes les démarches administratives en ligne. Et pour certaines personnes, c'est encore plus compliqué que pour d'autres. Vous pouvez déjà nous appeler et poser vos questions au 01 45 24 7000. D'avance, merci à nos standardistes, à Magdalena Hervada, ainsi qu'à Ronan Mahé, Philippe Duclos et Fabrice Desmaz, qui sont en régie.
Claire Servagen. Une semaine en France.
Bonsoir Dominique Simonneau.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté depuis un an et demi. Vous êtes une autorité indépendante. Et il y a quelques jours, vous avez donc publié une tribune dans les colonnes du Monde, une sorte d'appel à ceux qui peuvent entrer en prison. Vous dites entrer en prison aux magistrats, aux avocats, aux parlementaires. Pour quelle raison vous avez lancé cet appel, Dominique Simonneau ?
Parce que on n'est pas beaucoup à pouvoir entrer en prison. Quand j'étais journaliste, puisque c'était mon métier d'avant, entrer en prison, visiter les cellules, c'était toute une histoire. Il fallait demander des tas d'autorisations, on ne pouvait pas aller partout, tandis que les magistrats, les parlementaires, le contrôle général et désormais les bâtonniers, les chefs des avocats, peuvent y entrer. Or, ils n'y vont. Les bâtonniers, c'est tout nouveau. Les parlementaires, il y a eu 350 visites en 2021. Et les magistrats, malheureusement, alors que ce sont eux qui remplissent les cellules, n'y vont, disons que très rarement, c'est-à-dire à de très exceptionnelles et remarquables présences, mais ils n'y vont pas. Et c'est anormal. De même, les parlementaires qui réclament, surtout en ce moment, j'entendais la transgression, il faut être transgressif. Alors, c'est à qui il dira le plus d'ordures, finalement, et le plus de... Enfin, pour se faire remarquer, oui. Eh bien, là, ils réclament beaucoup plus de prison, beaucoup plus de fermeté. Beaucoup... Mais c'est déjà très dur. Et si toutes ces personnes... Je trouve ces discours assez irresponsables et en tout cas pas très honnêtes tant qu'on n'est pas allé voir là-dedans ce qui s'y passe.
Vous semblez même reprocher aux magistrats d'envoyer en prison des gens sans mesurer les conséquences de leur décision. Vous pensez vraiment qu'ils ne savent même pas la situation de ceux qu'ils envoient en prison ?
Je pense qu'ils savent qu'il y a 3 détenus par cellule, c'est-à-dire avec eux qui s'entassent dans... Moi, quand j'étais journaliste, j'écrivais qu'ils s'entassent dans 9 mètres carrés, mais non, parce que on a mesuré avec mes collègues et j'ai vu ce que c'était. En fait, il leur reste 4 mètres 30 carrés d'espace vital à 3. Je ne sais pas si vous voyez. Surtout que quand on ne travaille pas, et en ce moment, il y a le Covid, donc il y a beaucoup moins d'activités en prison, les promenades, tout est réduit. C'est quoi, 22 heures sur 24 là-dedans, mais il y a de quoi devenir dingue. Et je ne vois pas en quoi, en ce qui concerne les courtes peines, je ne vois pas l'intérêt d'envoyer des gens qu'on prétend réinsérer. Alors punir, ça, ils le sont. Enfin, la loi ne prévoit pas qu'on soit dévoré par des punaises de lit, qu'on attrape la leptospirose avec des rats dans la cour, et qu'on soit entassé comme ça. Donc, il n'y a aucun espoir de réinsertion, de sortir normalement, à mon avis. Enfin, je l'ai bien vu, on sort enragé, fâché.
C'est quoi le problème numéro un, Dominique Simoneau? C'est la surpopulation actuellement?
Actuellement, je dirais oui. Après, il y a d'autres problèmes. Mais
on va donner peut-être quelques chiffres pour qu'on comprenne. Oui. On est à combien de détenus à peu près?
Presque 70 000.
70 000. Et ça fait 11% de plus en un an.
Oui. Et je ne crois pas que la délinquance, en tout cas, ait monté de temps. En tout cas, le ministre de l'Intérieur a été très rassurant pour nous dire qu'elle avait baissé. Je crois qu'il y a une espèce de pression qui est faite. Justement, cette ère du temps assez répressif, assez exclamatif, en hurlant sur une réponse pénale à tout, il faut absolument. Et ça met la pression sur les magistrats. Je suis bien consciente que ils ont peur également de libérer des gens parce qu'ils ont peur que ça leur retombe dessus en cas d'ennui. Or, ça arrive, mais si vous voulez, pendant la période du Covid, en mars 2020, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, avait fait des ordonnances. Il y avait exactement, pratiquement autant de monde qu'aujourd'hui. Des ordonnances en se disant, mais s'il y a des centaines de morts en prison, c'est très grave. Donc elle avait pris des ordonnances pour que des gens soient libérés. Attention, pas d'horribles violeurs, d'ignobles assassins, comme je l'ai pu l'entendre, mais des gens, des voleurs, de la petite délinquance de tous les jours, et qui étaient libérés à 15 jours, 3 semaines, 1 mois de leur fin de peine. C'est pas dramatique.
Ça veut dire que quand il y a eu la pandémie, la première vague, Dominique Simoneau, oui. Je crois qu'on était même monté à 72 000 détenus.
Oui, on était à 72 000.
Il y a eu effectivement des mesures de régulation qui ont été prises pour vider en partie les prisons. C'est ça la réalité qui s'est passée lors de cette première vague. Alors justement, je voudrais vous faire entendre en juillet 2020, après cette première vague, le garde des Sceaux, là c'est Éric Dupond-Moretti, se félicitait lui-même de cette baisse du nombre de détenus lors d'une visite dans un établissement pénitentiaire après avoir entendu les surveillants et les prisonniers. C'était au micro de Sophie Parmentier.
Les gens de la prison disent, mais nous, s'il y a moins de détenus, on peut faire plus de travail. Et ceux qui sont détenus disent exactement la même chose. On est dans des taux d'occupation ici qui sont historiquement bas. Et c'est sans doute le chemin qu'il faut poursuivre. En tous les cas, c'est ma conviction.
Voilà ce que disait le garde des Sceaux en juillet 2020. On était descendu à
58 800.
Et depuis, donc, c'est remonté. Il y a 1000 détenus par mois en plus qui arrivent dans les prisons.
C'est énorme. Et je regrette que le garde des Sceaux ait oublié ce qu'il avait dit en juillet 2020, parce que aujourd'hui il y a toujours le Covid, enfin il y a quelques mois en tout cas, et il n'y a pas eu ces ordonnances. Je vois bien pourquoi. Hein. Je comprends bien que cette ambiance préélectorale n'est absolument pas propice à ça, mais
surtout que le chef de l'État, lui aussi, Emmanuel Macron, avait plaidé pour la régulation carcérale.
Dans un très beau discours à l'école...
Ça, c'était en 2018.
Voilà, exactement. À l'école de l'administration pénitentiaire. Et il avait dit qu'il voulait absolument qu'on teste ça, qu'on l'expérimente. Mais malheureusement, tout ça est oublié. C'est quand même malheureux de venir dire « Ah ben, c'est beaucoup mieux maintenant, parce que les détenus, ils peuvent apprendre quelque chose, ils peuvent faire quelque chose de leur temps en prison. Regardez comme c'est bien. Les surveillants également. Et là, de se retrouver à la prison de Toulouse-Seyss, les surveillants ont commencé en 2003, à l'ouverture, ils étaient 1 pour 50 détenus. Ils sont aujourd'hui 1 pour 150 détenus. C'est monstrueux.
Et les surveillants, ils ont bloqué des établissements hier pour leurs conditions de travail et pour les revalorisations salariales. Oui. Je tiens à préciser, Dominique Simoneau, que vous n'êtes pas la seule à alerter sur la situation dans les prisons. Il y a d'une part effectivement les personnels pénitentiaires, il y a aussi le directeur de l'administration pénitentiaire qui s'attend à une année 2022 difficile. C'est ce qu'il dit.
Oui, c'est ce qu'il dit. Il a écrit personnellement à tous les chefs de juridiction pour leur dire de faire attention, de leur dire « Voilà, il y a un taux d'incarcération effrayant dans votre juridiction, il faut relâcher des gens. Il faut mettre... » En fait, ce qu'il voudrait, c'est une régulation carcérale, lui aussi. Et il est bien conscient, Laurent Ridel, le directeur de la pénitentiaire, que ça ne peut pas durer. Et ça ne peut pas durer. Il va y avoir un malheur. Je ne comprends pas comment, alors qu'il existe tout un éventail d'alternatives à la prison, pourquoi la prison est dans l'esprit français la seule peine qui soit valable. Alors qu'il y a le travail d'intérêt général, j'adresse d'ailleurs un merci ému à Patrick Balkany qui a montré à tout le monde que le bracelet, exister. C'était pas de la blague. Et que quand on respectait pas les règles, on retournait en prison. Il y a le placement extérieur. Il y a la semi-liberté qui est un mode d'exécution de la peine. Vous travaillez la journée, vous dormez le soir en prison. Il y a énormément d'alternatives et pourtant elles ne sont pas employées.
Alors il y a donc ce problème de surpopulation, Dominique Simoneau, puis vous alertez aussi sur les conditions d'hygiène dans les prisons. Vous l'avez dit il y a quelques instants, effectivement, la gale, leptospirose, les punaises de lit, des rats. Il y a la question de la santé des détenus aussi. Je crois qu'il y a 30% voilà. De détenus atteints de troubles psychiques dans nos prisons.
Oui, plus de 30% atteints de troubles psychiques. Il y a également des gens... Il y a un problème de perte de chance parce qu'il y a tellement de monde que les extractions médicales sont annulées faute d'escorte et que donc là je sors d'une prison où trois jeunes hommes ont eu un cancer qui a été diagnostiqué tardivement, l'un est mort, l'autre c'était un peu tard, enfin c'est quand même, on n'est pas condamné quand même à ne pas être soigné. Il y a des tas de maladies graves. Moi, j'ai vu des détenus qui boitaient, qui n'arrivaient plus à marcher parce qu'on les emmène pas. Il n'y a pas le chirurgien. Et je parle pas des, je crois que le mal de dents parlera à tout le monde, mais avoir un abcès, le percer soi-même, faut quand même.
Effectivement. Alors, il y a aussi le cas des détenus âgés pour lesquels vous avez alerté en mai dernier, je crois. Vous avez alerté après une visite au centre de détention de Bédenac en Charente-Maritime, où se trouvent donc les détenus les plus âgés, certains handicapés, voire dépendants. 7 mois plus tard, en novembre dernier, le député Olivier Falorni est retourné sur place. Julien Fleury de France Bleu La Rochelle l'a accompagné pour voir si les choses s'étaient arrangées.
Assis sur son banc dans la cour de promenade, une aide à la respiration branchée dans les narines, un détenu se confie.
Si, soit on n'a pas de médecin, soit il faut attendre 3 semaines pour en avoir un. Bah, comme là j'ai des problèmes d'artère, je ne sais pas ce qu'il en est. Bah, depuis 6 mois que je suis là, j'ai pas de traitement. Quoi. Ce matin, vous pouvez demander aux autres, je ne marchais même pas ce matin. Le problème ici, on est un peu dans les oubliettes. Quoi.
Un médecin, il y en a bien un à l'unité sanitaire, mais son intérim s'achève à la fin du mois. Et puis il faudrait pratiquer des soins directement dans les cellules, ajoute une infirmière croisée dans le couloir.
On n'a pas le personnel pour aller les faire. Donc une personne qui a des protections qui est incontinente reste dans son pipi du vendredi matin jusqu'au lundi matin. On est un petit peu déçus quand même parce que depuis le mois d'avril rien n'a changé finalement.
Ce qui change tout de même, c'est l'état de santé des personnes accueillies, corrige le directeur de la prison de Bédenac, Éric Tardieu.
Là, c'était les détenus de moindre dépendance qui ont été affectés ici. Espérons que la nouveauté perdure.
Voilà qui pose la question des suspensions de peine, estime le député Olivier Falorni.
Il ne s'agit pas pour moi de dire celui-ci ou celle-ci doit sortir, ça relève du juge. Néanmoins, il faut aussi regarder le réel. Un certain nombre de détenus ne sont pas incarcérés dans des conditions respectueuses de la dignité.
Des détenus qui, pour beaucoup, seraient mieux traités dans un EHPAD, mais c'est aussi le défi du moment, trouver des places disponibles.
Alors ça, répétons-le, ce reportage date du mois de novembre. C'était avant que n'éclate le scandale des EHPAD. J'ai ça pour la conclusion.
J'ai bien compris.
Effectivement. En tout cas, vous y êtes allé dans cette prison.
Et on va y retourner là, bientôt. Mais d'ores et déjà, je voudrais dire, depuis novembre, des choses se sont passées quand même. Et ça va un peu mieux parce que cette infirmière qui disait il reste dans son pipi du vendredi au lundi, il n'y a pas que le pipi. Hein. Donc, je ne sais pas si vous imaginez 3 jours à baigner là-dedans, c'est ignoble. Et je crois que là, ils ont mis en place, pour une fois, ils nous ont écoutés. Je crois qu'ils se sont ressaisis. Et je pense que là, les choses vont s'arranger. Mais on va y aller pour vérifier.
Ce qui est assez incroyable, Dominique Simoneau, c'est que ces questions d'hygiène, on en parle depuis longtemps. On se souvient du livre de Véronique Vasseur, médecin-chef à la prison de la santé. Toutes ces questions, ça fait longtemps qu'elles sont sur la table. Et la France a d'ailleurs été condamnée, rappelée à l'ordre déjà oui. De multiples reprises. Condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme en janvier 2020 pour des conditions de détention dégradantes et inhumaines. La Cour de cassation s'est prononcée également. Le Conseil constitutionnel, ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'on ne sait pas.
Ah non, tout le monde est au courant. Et c'est ça que je trouve, mais non seulement c'est méchant, mais c'est bête en plus. Parce qu'on enferme les gens dans des telles conditions qu'ils ressortent pas du tout. Un des buts de la prison, c'est qu'ils ressortent meilleurs. On ne peut pas penser qu'on ressorte meilleur de ça. Donc, dans les maisons d'arrêt, c'est une situation catastrophique. Et pour les détenus, et pour le personnel pénitentiaire. Je ne comprends pas comment... Regardez l'Allemagne, c'est un pays, je vais y aller bientôt, pour voir comment ils ont fait. L'Allemagne, ils sont à 70% de taux d'occupation des prisons. Ils l'ont fait baisser. Alors, je vais aller voir, je vais aller visiter les prisons et voir... Je vous raconterai.
Effectivement.
Comment ça se passe?
Vous nous direz. On va poursuivre la réflexion sur tous ces sujets, Dominique Simonneau. Mais on va passer d'abord à l'actualité de la semaine. Actualité ici en France, je le précise, hein, parce que l'actualité internationale est très fournie en ce moment. Actualité ici en France, toujours dominée par la crise sanitaire et la présidentielle. On voit ça avec ce mix qui a été mis en onde par Anne-Cécile Perrin.
Bien content de pouvoir retrouver la place debout.
Quand on est assis, c'est le même café, ça change
rien.
C'est
le même café, mais bon, c'est pas la même ambiance, quoi.
Le café au comptoir, c'est à nouveau possible. Et retourner en discothèque aussi. Bref, on peut refaire la fête. Bon, là, on n'est pas en boîte, mais en meeting avec Valérie Pécresse.
C'est le moment de montrer qu'on a une grande candidate.
Une candidate à droite toute.
Pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement.
Je pense que c'est une erreur de prendre toujours le vocabulaire de l'adversaire.
Jean-Pierre Raffarin, qui ne cache pas un certain penchant pour l'actuel président.
Est-ce que Emmanuel Macron va mettre son expérience au service d'un grand élan? Si c'est ça, je trouve que c'est une voie intéressante.
Pendant ce temps, Éric Zemmour engrange.
Mon parti, qui a été créé il y a 2 mois, Reconquête, a aujourd'hui la joie d'accueillir sa 100 000e adhérente.
Des transfuges LR, mais aussi RN. Dernière recrue en date, l'eurodéputé Nicolas Bay, poussé vers la sortie par Marine Le Pen.
À partir du moment où les gens se tiennent mal, où ils sont déloyaux...
Accusé d'avoir transmis des informations aux concurrents.
Si nous avons pris au bureau exécutif cette décision, c'est que nous avons les éléments.
Le Rassemblement national fait semblant de chasser quelqu'un qui est parti, voilà.
Gilbert Collard parti avant lui et qui s'y connaît en trahison.
C'est un peu du labiche, je ne veux pas être cocu, donc je quitte ma femme, voilà.
À la rubrique « Il n'y a pas d'amis en politique », on a aussi ce que Jean Lassalle dit de François Bayrou.
J'ai été trop bien avec lui pour en dire du mal, et désormais je suis trop mal avec lui pour en dire du bien.
Jean Lassalle, tout près de décrocher ses 500 parrainages. Anne Hidalgo, elle les a déjà. Le problème, c'est que le courant ne passe pas. Alors faut-il la débrancher? Réponse du patron du PS, Olivier Faure.
Je ne suis pas électricien, donc je ne débranche personne.
Ségolène Royal, elle fait tout disjoncter.
À sa place, j'arrêterai.
Quand on vous dit qu'il n'y a pas d'amis en politique.
Et aujourd'hui, c'est évident que le vote utile à gauche, c'est le vote Mélenchon.
La France des rébellions et des révolutions, celle des gilets jaunes, méprisée, huée, insultée, traitée de tous les noms.
On est parti jeudi de Toulouse. Partout où on s'est arrêté, il y avait toujours un accueil formidable. Les gens, ils nous disaient, allez-y, portez-nous là-haut. Merci.
La pandémie en recule, mais il y a encore 250 morts du Covid chaque jour, en moyenne. Autant dire que ce n'est pas tout à fait la fin.
Nous avons encore un malade admis en réanimation en raison d'un Covid tous les quarts d'heure.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran.
À la mi-mars, si les hôpitaux sont en état normal de fonctionnement et si la circulation du virus est très faible, nous pourrons enlever les masques et nous pourrons commencer à alléger fortement le dispositif du pass vaccinal.
Pour terminer, la parole au jeune Kyle de l'AS Bondy pour qui l'essentiel était ailleurs cette semaine.
Il n'a pas encore signé le papier comme quoi qu'il est au Real, il est encore au PSG, donc j'espère que Kylian Mbappé sorte un bon match et qu'il nous sauve.
Et il marque le but de Kylian Mbappé. Quel génie! Mais quel génie ce joueur!
Et encore un grand merci à Anne-Cécile Perrin. Une semaine en France avec Dominique Simonneau, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, qui fut aussi jusqu'en 2020 journaliste, d'abord à Libération, puis au Canard enchaîné. Une réaction à ce qu'on vient d'entendre, Dominique Simonneau, à cette actualité?
Bah écoutez, c'est tellement tragicomique que je ne sais pas ce qu'il faut faire. Parfois j'éclate de rire, parfois j'ai envie de pleurer. Mais c'est effrayant. C'est, tout s'extrême droitiste dans le discours. La droite, les LR étaient des gens plutôt pondérés, parfois, pas tous, mais disons Valérie Pécresse, je pensais, mais qu'elle en vienne à parler du grand remplacement, c'est quand même un peu triste, non?
Alors, vous disiez tout à l'heure, effectivement, qu'il y avait une surenchère par rapport à la sécurité et aux prisons. C'est vrai que Marine Le Pen veut 20 000 places de prison de plus, Valérie Pécresse aussi. Tout le monde veut plus de places en prison. Et vous allez voir que c'est un débat récurrent. Je vous propose d'écouter ce que disait Robert Badinter lorsqu'il était garde des Sceaux. C'est un extrait de l'émission L'Heure de Vérité de 1985 sur Antenne 2. On écoute le garde des Sceaux.
Les prisons françaises ne sont pas l'honneur de notre pays. J'ai eu cette humiliation au Conseil de l'Europe, d'apprendre que de tous les pays, 11 pays d'Europe du Nord, nous étions celui qui dépensait le moins par tête de prisonniers. Vous savez l'état de nos prisons. Moi, j'ai trouvé en arrivant 29 000 places pour 41 000 prisonniers. J'en ai construit plus que quiconque. Nous avons construit à peu près 550 places par an. Mais le retard est immense. Et là, j'ajoute que quand il s'agit d'implanter une prison, quelle que soit la couleur politique, j'ai la réaction municipale qui est toujours la même. On entend les Français réclamer répression, sévérité, fermeté. Mais quand il s'agit d'implanter dans une commune une prison, alors là, c'est toujours la commune d'à côté. Et ça est vrai pour toutes les couleurs politiques. On vient voir, mais non, c'est pas possible, vous pouvez pas. Mais c'est incroyable, enfin, vous ne l'aurez pas compte. Une caserne de CRS, oui, pas de prison. Pas de prison, mais des prisonniers.
Voilà, 1985, Dominique Simoneau.
Oui, c'est très triste à dire, parce que quand je suis partie du Canard Enchaîné, j'avais un dossier haut comme ça, presque un mètre, de tous les recours formés par des tas d'associations et des élus, non à la prison là, non à la prison là. Lutterbach, qui a ouvert il y a peu, avait été annoncé par Michel Alliot-Marie en 2009, donc... C'est 10 ans pour construire une prison.
Alors Lutterbach, justement, c'est la seule prison qui a ouvert sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, parce que évidemment, construire des prisons, c'est plus facile à dire qu'à faire.
Voilà,
ça prend effectivement du temps. Lutterbach, c'est le nouveau centre pénitentiaire qui remplace la vieille prison de Mulhouse. Donc la nouvelle a ouvert il y a quelques mois, un nouveau centre pénitentiaire dans lequel la règle est celle de l'encellulement individuel, qui est un principe de base. Je propose à ce sujet une visite de deux cellules avec le directeur de l'établissement, Fabrice Bels. Il a fait visiter les lieux à Patrick Genton de France Bleu Alsace.
Dès que vous rentrez, donc on a un équipement similaire pour toutes les cellules. Immédiatement à l'entrée de la cellule, vous allez trouver le coin sanitaire qui est équipé d'une douche et des WC. Juste après, le lavabo qui permet aussi à l'intéressé d'avoir accès à un point d'eau. Un équipement classique pour toutes les cellules, la télévision, le réfrigérateur, le téléphone en cellule et la plaque vitrocéramique. Et un lit individuel, matelas et oreiller et le mobilier qui lui permet de ranger ses affaires.
La nouveauté donc c'est le téléphone en cellule.
C'est un dispositif qu'on développe maintenant depuis quelques années au sein de tous les établissements. Jusqu'alors on installait des points phones sous les coursives. Maintenant on permet aux détenus de pouvoir joindre leurs proches à toute heure de la journée. Le nombre de numéros de téléphone est limité et bien sûr on procède à des contrôles pour s'assurer que l'individu veut joindre la personne qui nous a désigné.
On va pas se mentir, Dominique Simoneau, certains vont trouver ça trop luxueux. Parce que ça fait partie du débat sur les prisons.
Mais bien sûr que cela ne s'inquiète pas, parce que d'ici quelques mois, la prison de Lutterbach sera comme les autres, surpeuplée. J'ajoute qu'il s'agit de centres pénitentiaires énormes, installés loin des villes, loin des yeux, loin du cœur, sont souvent très difficiles d'accès, donc il est très difficile pour les familles d'y venir. Et puis, quand il y a un centre de semi-liberté, c'est-à-dire travailler la journée ou se soigner la journée et rentrer le soir, c'est extrêmement compliqué. J'ai fait les trajets chaque fois que dans toutes les prisons qu'on visite, et c'est toujours des horaires de bus. Ça passe
compliqué.
Oui.
Mais pour en revenir au débat politique, c'est vrai que parler des conditions de détention, c'est inaudible pour une partie de la population et des élus, surtout en période électorale.
Moi, je pense que c'est plus pour les élus que pour la population. Les gens sont pas si, les citoyens sont pas si idiots. Par exemple, au moment du Covid, quand Nicole Belloubet a fait libérer des tas de prisonniers. Vous n'avez pas entendu de hurlements, personne n'a crié au scandale en disant on libère des hordes d'assassins. Non, c'est passé franchement très calmement. Donc je pense que quand on explique bien aux gens de quoi il s'agit, je crois qu'ils le comprennent. Évidemment, quand on en rajoute quand on joue la surenchère sur il faut de la prison, il faut de la prison, il faut de la prison, voilà.
Je voudrais qu'on dise un mot, évidemment, de la justice, Dominique Simonneau, parce que ce qui se passe dans les prisons renvoie forcément au fonctionnement de la justice. Et qui sait si vous la connaissez, si vous l'avez racontée, et notamment les fameuses comparutions immédiates qui envoient du monde en détention.
Ah, elles sont responsables de plus de la moitié des incarcérations.
Et donc ça va très très vite.
C'est-à-dire qu'on est jugé en 20 minutes, une demi-heure plaidoirie comprise, que sans, alors là j'insiste, sans les éléments de personnalité ou de vie de la personne, du prévenu. Et donc, quand le juge n'a pas tous ces éléments en main, et il ne sait pas quoi faire. Il y a des associations et des gens qui sont chargés de faire ce qu'on appelle des enquêtes sociales rapides. Mais rapides, elles portent bien leur nom. Là, je sors d'un tribunal où le président m'a expliqué que c'était indigent, ce qu'on lui remettait comme enquête sociale rapide. Seulement, ça fait 2 ans qu'il pense que c'est indigent et que rien ne change. C'est de l'argent public qu'on dépense pour rien. Donc, il faudrait que ce soit une... J'entendais des magistrats hier discuter, ils disaient qu'il faudrait que ce soit une décision presque scientifique, basée sur voilà, il a des proches, il peut aller habiter là, il peut avoir un travail, il peut ça, il a des possibilités, et c'est là qu'on prend bien sa décision. Mais comme les comparutions immédiates vont extrêmement vite, que les audiences s'achèvent parfois à 2-3 heures du matin, les juges arrivent dans un état où ils ne peuvent pas juger et les avocats pas défendre et les prévenus pas tellement se défendre non plus, et ben on prend des décisions à la va-vite.
Et c'est donc une justice peut-être à deux vitesses.
Ah, ça c'est sûr.
Et ça, vous l'avez bien raconté, notamment dans votre livre Coup de barre, qui a été publié au Seuil, Dominique Simonneau, et quand vous le racontiez, évidemment, dans les colonnes du Canard Enchaîné et de Libération. En tant que contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, aujourd'hui, vous publiez des avis, des rapports, des recommandations. Un tout petit mot quand même de la garde à vue, parce que vous avez alerté, là aussi, en septembre dernier, sur l'insalubrité des locaux de garde à vue, ça ne s'arrange pas de ce côté-là non plus ?
Ah ben non, parce que le ministre de l'Intérieur s'est montré très sceptique quant à l'état de ces geôles. Pourtant, dans sa propre ville, elles ne sont pas brillantes non plus. Et maintenant, nous, on s'est fait une spécialité de visiter. Écoutez, vous rentrez là-dedans, comme parfois dans les cellules d'ailleurs, il y a une odeur, mais c'est insoutenable. Vous asseyez pour parler aux gens sur un matelas qui n'a pas été nettoyé depuis jamais. Il y a des couvertures, elles sont là, elles sont lavées quand on a le temps. Mais il y a le Covid qui rôde, non ? Donc on s'assied, je me dis, la première fois, je me suis dit, alors je vais choper quoi ? Ma vieille, tu vas ressortir avec quoi de là-dedans ? Des punaises, la gale, le Covid. Mais c'est... Et d'ailleurs, les policiers étaient très contents chaque fois. Ils sont contents qu'on vienne, hein, à de rares exceptions. Parce qu'ils disaient, aidez-nous. Nous aussi, on a honte.
Et sinon, le retrait des lunettes et des soutiens-gorge en garde à vue, c'est encore systématique, ça ?
Ça dépend des endroits. C'est bizarre, la vie. Ça dépend des endroits, c'est comme ça dépend des tribunaux. Parfois, il y en a des très sévères et parfois, il y en a... qui le sont moins.
Tout à l'heure, on parlera aussi des autres lieux que vous contrôlez, Dominique Simonneau. Mais pour l'heure, il est 18h44.
France Inter, le 18-20, une semaine en France.
C'est l'heure de la chronique Jeu de pouvoir de Vincent Martini de l'Hebdo Le 1, chronique à retrouver le samedi sur l'application du magazine. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Alors ce soir, vous allez nous parler, on l'a annoncé dans les titres, de la transgression qui semble être devenue la norme pour de nombreux candidats à l'élection présidentielle.
Avec cette question Claire, dans cette morne plaine de la campagne présidentielle, faut-il provoquer pour exister politiquement ? On pourrait le croire à écouter les déclarations plus clivantes les unes que les autres de certains candidats, tous partis confondus. C'est le communiste Fabien Roussel qui fait le buzz en défendant la bonne viande comme symbole d'un art de vivre à la française pour se démarquer des écologistes. Yannick Jadot qui attaque Éric Zemmour en le qualifiant de juif de service pour les antisémites. Ou encore Valérie Pécresse qui reprend les expressions de grand remplacement et de français de papier dans son meeting de dimanche dernier. Et je ne parle même pas d'Éric Zemmour qui en a fait sa marque de fabrique et n'en finit plus de transgresser sur tous les sujets, de la réhabilitation du maréchal Pétain aux discours chaque jour plus radicaux sur l'immigration.
Alors quelle est la stratégie qui se cache derrière cette surenchère ?
Eh bien j'en vois au moins 3 distinctes. Du côté de Fabien Roussel ou d'Yannick Jadot, il s'agit avant tout d'être entendu et de dynamiser une campagne jugée poussive. C'est ce que j'appelle la stratégie de la provoque mégaphone. Pour Valérie Pécresse, on a plutôt affaire à un calcul politique classique visant à ne pas se laisser déborder par ses concurrents d'extrême droite. Comme Nicolas Sarkozy en 2007, la candidate LR ambitionne de parler aux électeurs tentés par le vote extrême pour les ramener dans le giron de la droite dite républicaine. Quant à Éric Zemmour, son objectif est clairement de faire la promotion d'idées radicales pour les intégrer dans le champ des discours autorisés, selon le paradigme de la fenêtre dite d'Overton, un concept popularisé par la campagne de Donald Trump en 2016.
Est-ce que vraiment les candidats peuvent tirer profit, bénéfice de ces provocations ?
À court terme, c'est possible. Pour être entendu, il n'est pas forcément mauvais d'apparaître en rupture dans un univers politico-médiatique qui encourage les clashs et discours excessifs. Par ailleurs, un propos volontairement clivant peut déstabiliser les concurrents et les contraindre à se positionner par rapport à vos idées et non les leurs. C'était la stratégie, on s'en souvient, de Nicolas Sarkozy en 2007. C'est aujourd'hui celle d'Éric Zemmour vis-à-vis de Marine Le Pen ou de Valérie Pécresse. Mais cette avalanche de provocations, elle pose plusieurs problèmes plus fondamentaux.
C'est-à-dire ?
D'abord, ces petites phrases dissimulent les faiblesses de certains prétendants à la présidence, que ce soit le défaut de charisme, suivez mon regard, la fragilité du socle électoral ou l'excès de radicalité. Sauf que la provocation ne tient pas forcément lieu de conviction. À ce titre, il n'est pas certain que cette stratégie soit payante pour gagner l'élection. Car ces formules acérées nuisent à la présidentialité des candidats et les font apparaître comme trop clivants dans un pays obsédé par l'unité nationale et qui voit dans le président un grand rassembleur. Plus grave encore, me semble-t-il, ce règne de la transgression ne fait que renforcer l'accusation d'insincérité des acteurs politiques qui semblent aux yeux de leurs électeurs ne plus croire en rien. Alors que près d'un électeur sur deux n'est toujours pas certain d'aller voter le 10 avril, un tel petit jeu n'est pas de nature à encourager la participation au scrutin du nombre croissant de nos concitoyens qui en a plus qu'assez de ces mises en scène.
Merci beaucoup Vincent Martini. Dominique Simonneau,
bien dit.
Vous voyez, hoché là.
Non, je dis bien dit. C'est vrai.
Voilà, lu et approuvé, comme on dit. On va écouter un petit peu de musique.
Sur mon écran tactile, que reste-t-il de sauvage? Dis-moi, que reste-t-il? Ouais, je caresse ton visage sur mon écran tactile. Que reste-t-il du paysage? Dis-moi, que reste-t-il? Adieu vieux monde adoré, adieu vieux monde adoré. Une image oubliée sur un bout de papier. Un quoi, si punk, iroquois, crypto-chat, bikini turquoise. Où suis-je sur la toile? Ah ouais, j'appelle à l'aide mais je ne sais ni qui ni pourquoi. Bikini turquoise, ni qui ni pourquoi. Bikini turquoise, où suis-je sur la toile? Ah ouais. Je caresse ton visage sur mon écran tactile. Que reste-t-il du paysage? Dis-moi, que reste-t-il? De cristaux liquides, devine combien de vues ça lui fait. Ok Google, quel est-il? Celui auquel on sacrifie. Certains disent qu'il eut un fils. Quant à moi, je n'y crois pas. Non, moi, je caresse ton visage sur mon écran tactile.
Le groupe Feu Chatterton, Cristaux liquides, c'est un choix musical de Djoubaka.
France Inter, le 18-20, Claire Servageant.
Toujours en compagnie de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simoneau. On va parler un petit peu de vous maintenant, de votre parcours. C'est la règle du jeu dans cette émission. On va commencer par le commencement. Vous êtes née en 52, on a le droit de le dire.
Bah oui.
Vous avez grandi où ? À Paris ?
À Paris.
À Paris. Après le bac, vous avez donc choisi de faire des études de droit, si j'ai bien lu, tout en travaillant dans un cabinet d'avocat.
Oui.
Ça, c'est pas par hasard. Il s'est passé quelque chose.
Ben dans ma famille, il y avait plein d'avocats et que j'admirais beaucoup. Et je m'étais dit, tiens, et si tu devenais avocate ? Et puis, ils étaient trop forts pour moi. Et donc, je me suis dit, je serais rien du tout. En plus, je suis paresseuse, bien que je travaille beaucoup.
Comme du mal beaucoup à vous croire quand même.
Et je me suis dit, tiens, ben, si je faisais autre chose.
La magistrature, non ?
Je crois que je pourrais pas. J'y arriverai. J'ai bien essayer, mais ça m'est contraire, je ne pourrais pas.
Le fait de juger, c'est ça ?
Oui, non. J'ai beaucoup de copains magistrats, la question n'est pas là, je trouve que c'est un métier tout à fait très honorable, au contraire, mais personnellement, je n'y arriverai pas, voilà.
Toujours est-il que quand vous étiez étudiante, je crois que vous alliez voir les audiences, déjà.
Oui.
C'était quelque chose qui vous attirait ?
Ah oui, j'adorais, parce que notre prof nous disait toujours d'aller voir les comparutions immédiates, et c'est là que, un peu effaré avec mes camarades étudiants, on sait, mais c'est pas du tout ce qu'on apprend dans les livres, ces audiences. Et puis alors, à ce moment-là, à l'époque, il y avait des magistrats un peu folklore, disons. Vous savez, c'est tout juste s'ils n'étaient pas mon brave. Ils appelaient les gens. Enfin bon, c'était tout juste s'ils ne tutoyaient pas les prévenus. Voilà. Eh bien alors, mon petit Mohamed, hein, on dort dans une voiture, on arrache les fils de l'autoradio, ben c'est bizarre. Quand le tribunal dort, il n'arrache rien du tout.
Ça existe plus, si, ça existe encore.
Ça existe
un petit peu moins dans le ton, peut-être.
Un peu moins. Maintenant, c'est un peu plus techno, ce qui fait pas moins peur, d'ailleurs.
Alors, toujours est-il que vous étiez attirée par ce qui se passait dans les oui. tribunaux, mais vous avez décidé d'être ni avocate ni magistrate, et vous avez donc choisi, malgré tout, de travailler dans la pénitentiaire, mais comme... Alors, j'ai pas tout à fait compris, parce que je connais pas très bien ces
aujourd'hui,
métiers.
Aujourd'hui, ça s'appelle CPIP,
éducatrice.
Et de mon temps, ça s'appelait déléguée à la probation, c'est éducateur, éducatrice.
Dans l'administration voilà. pénitentiaire.
Donc je m'occupais des gens, des sortants de prison, des gens qui étaient condamnés à des sursis, des libérations conditionnelles. Je vous passe les détails, on s'occupait de ces gens-là. C'est un métier magnifique. Pour essayer de les aider et en même temps de contrôler qu'ils ne fassent pas d'écart. Voilà. C'est pour ça que je comprends très bien en ce moment que je sais très bien quel est ce métier et je sais très bien qu'il y a des possibilités autres que la prison.
Un métier difficile, hein, même si c'est un beau métier, ce que vous dites. Parce que, alors, j'ai lu une anecdote dans Dalloz Actualité, je vais vous le dire, ma source, à propos d'un de ces détenus dont vous vous occupiez, un jour qui a volé vos clés.
Oui.
Et votre appartement
oui.
a été cambriolé
oui.
dans la foulée. Bon, pas trop de doutes sur cette affaire.
Ah ben j'étais sûre que c'était lui, mais une fois à l'audience, le procureur a été foudrage contre moi d'ailleurs, parce que j'ai dit, écoutez, on reçoit 60-70 personnes par jour au bureau, comment vous voulez que je puisse jurer que c'est lui ? Donc, il m'a dit, oui, à toute cause de vous, voilà, bon. J'ai dit, je peux pas aller contre, je vais pas dire,
contre
je vais pas mentir pour vous faire plaisir. Non
contre
plus.
Vos principes aussi.
Voilà.
Et puis après ces années passées, à peu près une dizaine d'années, je crois, dans ce métier, vous êtes devenue journaliste.
Oui.
Dominique Simoneau, en 91. Pourquoi cette bifurcation ? Ça s'est passé comment ?
Parce que je croyais tellement profondément que de l'intérieur de la pénitentiaire, je pourrais faire changer les choses, qu'il y avait moyen. Et je me suis épuisée à penser ça et je me suis rendu compte que à l'époque les éducateurs qu'on étaient assez méprisés. Hein. Donc j'arrivais à rien et j'avais un copain qui travaillait à Libé et je lui ai dit voilà mais j'ai tellement d'histoires que je pourrais raconter. T'as pas idée, je peux pas faire un stage s'il te plaît. Voilà.
Et c'est comme ça que vous êtes devenue chroniqueuse judiciaire.
J'ai tapé l'incruste, comme on dit, Ali.
Voilà. Et non, mais ce qui est formidable, c'est que vous racontez les comparutions immédiates, parce que souvent, quand on a la chronique judiciaire, le truc noble, c'est les assises. Mais pas forcément les comparutions immédiates.
C'est absolument passionnant, ça raconte la société à un endroit donné, c'est la petite délinquance qui pourrit souvent la vie des gens, c'est que des histoires incroyables. Incroyable.
Incroyable. Pour ceux qui auraient raté les papiers dans Le Canard Enchaîné ou dans Libé, vous en avez fait un livre coup de barre,
oui,
qui a été publié au Seuil, chronique de comparution immédiate, qui a même été adapté au théâtre, d'abord à la Manufacture de Nancy, puis au Théâtre du Rond-Point à Paris, avec sur scène Bruno Ricci.
Guillaume et Jérémy, casier vierge, 22 ans, sont en prison depuis un mois. Armés d'un vieux flingue non chargé, vêtements et cagoule noire, ils ont braqué l'Intermarché en braillant « Désolé, désolé !»« Vas-y, fils de pute, colle-moi ta peine, je m'en bats les couilles !»« Allez, on continue. Nous avons 18 dossiers à cette audience. » Et même 4 de plus, ajoute la greffière.
Voilà, on a le choix entre le théâtre ou oui, aller voir les audiences, parce que c'est ouvert.
Moi, j'encourage tout un chacun et toute une chacune, puisque à aller à ces audiences et à aller voir si c'est là qu'ils verront à quel point la justice n'est pas laxiste du tout. Parce que là, les peines, elles tombent, hein, comme à Gravelotte.
Et puis alors, donc vous avez été journaliste pendant toutes ces années, au moins, je sais pas, 25 ans, 30 ans. Dominique Simonneau. Puis vous avez été nommée donc contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. C'est vrai que le passage du Canard Enchaîné à un tel poste, c'est un peu improbable. J'ai l'impression que même vous n'en revenez toujours pas.
Là, je commence à réaliser au bout du mois. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais d'abord un peu paniquée. Et puis, j'ai réfléchi. Enfin, quand on me l'a proposé, j'ai réfléchi. Au début, j'ai dit non, je n'en serais pas capable. Après, je me suis dit, mais quand même, ma vieille, là, ça boucle une vie quand même. Enfin, tout ce qui t'a toujours passionné dans la vie est contenu dans ce poste incroyable. Et c'est pas mentir, parce que j'ai découvert un travail extraordinaire. L'équipe avec qui je travaille, elle est sensationnelle. Ils sont très balèzes. Ils sont vraiment forts.
Il y a toutes sortes de métiers qui travaillent avec vous. Et vous êtes une autorité indépendante, c'est ça qu'il faut dire. Vous avez été nommée pour 6 ans.
Oui.
Et personne ne peut vous enlever de là.
Non, sauf si je vole dans la caisse. Mais je ne le ferai pas.
Et donc, vous avez tout un champ d'action, d'établissements à contrôler. Alors, on n'a pas pu rentrer dans tous les détails. On a parlé des prisons. Il aurait fallu qu'on parle des centres éducatifs fermés, des centres de rétention, des centres psychiatriques aussi. Dominique Simonneau, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Moi, si j'ai une chose à vous demander, allez, on a 10 secondes, oui, même pas pour terminer. 5 secondes. La priorité aujourd'hui, c'est quoi? C'est plutôt les prisons?
C'est plutôt la surpopulation.
Ce dont on a parlé au début de cette émission. Donc c'est parfait, on a fait l'essentiel. Ah, je pense que je m'étais trompée, je pensais que j'avais plus de temps. On a encore une petite minute, alors dites-moi.
Alors, oui, l'autre souci, c'est les enfants. Parce qu'aux comparutions immédiates, plus de la moitié des prévenus sont des gens qui sortent de l'aide sociale à l'enfance, qui ont été jetés à la rue par leurs parents, etc. Il faut mettre le paquet sur ces enfants. Il faut, c'est nos enfants, c'est notre avenir. Et or, ça n'est pas fait. C'est mal fait. On en reparlera peut-être.
On en reparlera. Effectivement, il y a les enfants. Et puis, peut-être une question sur les EHPAD, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment. Et je sais qu'un de vos prédécesseurs, Jean-Marie Delarue, vous souhaitez que vous vous occupiez aussi de ça. Vous pensez que ça... Vous avez peut-être d'autres chats à fouetter à cette chose à faire?
La question n'est pas là. D'abord, il faudrait 10 fois plus de contrôleurs que ce qu'on est. Et ensuite, on a beaucoup réfléchi à ça entre nous, bien avant le livre. Et on s'est dit que tous les gens dont on s'occupe et dont on défend les droits seraient engloutis par le scandale.
Bien sûr. Merci 1000 fois, Dominique Simonneau, d'être venu ce soir à France Inter pour vous adresser aux auditeurs. Merci 1000 fois.